Bienvenue à l'église au cœur de la ville. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l'écoute de ce message.
On est donc dans le cadre de notre série « Retrouver les vrais sens ». Et on va partager ensemble aujourd'hui le troisième et dernier message, un regard qui donne la vie. Je rappelle que les objectifs de cette série, c'est d'édifier les croyants, c'est-à-dire vous et moi aussi, à développer ou à retrouver une bonne pratique des sens spirituels indispensables à la vie du disciple. Et dans la continuité d'Ésaïe 50 au verset 4, qu'on avait lu lors des deux précédents messages, nous pouvons lire les passages suivants. Dans Ésaïe au chapitre 50 et au verset 10, il est dit « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. » Il était question du serviteur souffrant dans la prophétie d'Ésaïe 50. « Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière. » Ça renvoie aussi à la vallée de l'ombre dont on avait aussi partagé ensemble. « Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. » Et l'Éternel n'a pas un nom, il a des noms. Et chaque nom de l'Éternel est une promesse dont nous devons nous emparer. Et qu'il s'appuie sur son Dieu. Un peu plus loin, le chapitre d'après d'Ésaïe, au chapitre 51 et au verset 1er, il est dit « Écoutez-moi, réveille mon oreille, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards. » Écoutez, regardez, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Waouh ! Portez les regards. Après avoir abordé le thème de l'ouïe, l'écoute, et de la parole, il m'a paru évident d'aborder en dernier le thème de la vue. Pourquoi, selon vous, est-il utile d'aborder le thème de la vue? Vous savez que notre culture post-moderne privilégie la vue à l'écoute. On vit dans un monde où la vue compte beaucoup, voire même beaucoup trop. On regarde, on observe, et puis derrière, on juge. On pense, etc. On analyse avec nos yeux. Notre culture est saturée d'images de toutes sortes. Que ce soit des placardages publicitaires, des films, des vidéos. Plus le temps passe et moins les gens prennent le temps d'écouter, de lire. Mais on lit peu. On lit un petit verset comme ça, par jour. Comment je peux arriver à me nourrir spirituellement avec un petit verset par jour? On vit dans un monde où, par contre, on regarde les photos, on regarde les gravures, on regarde les images, on regarde la télé, on regarde plein de choses. Il y a beaucoup de bruit et de voix qui s'élèvent, en réalité. Mais la majorité préfère voir plutôt que de chercher à comprendre. Voir plutôt que de comprendre. Peu ont le temps d'écouter attentivement, de se concentrer sur l'essentiel. Et donc finalement de parvenir à se remettre sérieusement en question. En plus de tout cela, nous ne sommes plus dans une société de transmission orale. Il y a des années en arrière, on transmettait oralement les choses. Et donc ça mettait en contrainte de devoir se parler, prendre du temps pour transmettre la connaissance. On n'est plus dans une société de transmission orale, où l'on prend le temps de partager son histoire, de parler, d'écouter, de méditer ensemble. Alors, à votre avis, entre l'ouïe, la parole et la vue, un sens a-t-il plus de valeur d'un point de vue spirituel que l'autre? La plupart des juifs et des chrétiens dirait que c'est l'ouïe qui est la plus importante. Il est écrit dans Romains, chapitre 10, au verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et donc il faut lire la Bible pour que la foi naisse en nous, puisque la foi est générée par l'écoute de la parole de Christ. C'est en effet l'ouïe qui est, on veut dire, le premier des sens dans un point de vue chronologique. Et c'est elle qui commande les autres sens. Que ce soit dans la Nouvelle ou l'Ancienne Alliance, une réalité subsiste, entendre fait voir et fait agir. Cette première place faite à l'ouïe ne signifie pas pour autant que la vue n'a pas d'importance. Parce qu'on pourrait dire, l'essentiel pour nous, les hommes et les femmes de Dieu, de l'Esprit, les gens de la parole, c'est l'écoute. Nous devons privilégier l'écoute. Il nous faut entendre ce que Dieu a à nous dire. Et cette première place qui est donnée à l'écoute dans le fait d'entendre ne signifie pas pour autant que la vue n'a pas d'importance, que nous devons la négliger. Un texte central dans le livre du Deutéronome au chapitre 4 et au verset 32 à 36 révèle que Dieu est autant, ou plutôt s'est autant révélé à Israël en s'adressant à leurs oreilles qu'à leurs yeux. Dans Deutéronome chapitre 4 verset 32 à 36 dans la traduction Parole de vie, il est dit que Moïse dit « Réfléchissez aux événements d'autrefois, à ce qui s'est passé longtemps avant vous, depuis que Dieu a créé les êtres humains sur la terre. » Demandez-vous ce qui est arrivé d'un bout du monde à l'autre. Est-ce que quelque chose d'aussi extraordinaire a déjà existé? Est-ce qu'on a déjà entendu raconter une chose pareille? Est-ce qu'un peuple a déjà entendu la voix d'un Dieu lui parler au milieu du feu? Tout en restant en vie comme cela vous est arrivé. Est-ce qu'un Dieu est venu se choisir un peuple au milieu d'un autre peuple? Non, mais le Seigneur votre Dieu l'a fait pour vous, sous vos yeux. C'est pourquoi il a envoyé de grandes souffrances aux Égyptiens. Il a réalisé pour vous des actions extraordinaires et étonnantes, des exploits puissants et terribles. Vous, vous avez pu voir clairement. Vous n'avez pas fait que d'entendre. Vous avez vu. Et vous n'avez pas vu d'une manière pas claire. Vous avez pu voir clairement tous ces événements pour que vous reconnaissiez ceci. C'est le Seigneur qui est Dieu. Et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Est-ce que c'est clair ça? Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Du ciel, il vous a fait entendre sa voix pour vous éduquer. Sur terre, il vous a montré son grand feu et vous l'avez entendu parler du milieu du feu. Voir, entendre, entendre, voir. Pour Dieu, c'est aussi important, et ça l'est évidemment aussi pour nous. Ce texte nous montre que Dieu ne privilégie pas un sens plutôt qu'un autre, et qu'il se révèle autant par l'un que par l'autre. Même si l'ouïe passe chronologiquement avant la vue, ces deux sens ont autant d'importance dans le cadre de la révélation divine. Dieu se révèle par l'un comme par l'autre. Il est le Dieu qui parle, et nous devons l'entendre, l'écouter, discerner sa voix au milieu du tumulte qui nous environne, savoir faire silence pour entendre parler l'Éternel. Mais il est aussi celui que nous devons voir de nos yeux en action. L'Évangile est une réalisation des paroles prophétiques qui étaient déclarées par Ésaïe au chapitre 29 et au verset 18. En ce jour-là, en ce jour de grâce, que va-t-il se passer? Les sourds entendront. Amen. Les paroles du livre. et délivrer de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Jour de grâce où les oreilles sont ouvertes et où enfin les yeux ne sont plus dans la cécité, mais ils voient. Ils contemplent ce que Dieu fait, ce que Dieu est. En son temps, dans le livre de Job, Job a déclaré au chapitre 42 et au verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi. J'avais entendu. Mais maintenant, je suis dans une autre étape de ma vie spirituelle. Maintenant, mon œil t'a vu. » Est-ce que vous voudriez pouvoir dire comme Job, « Avant, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Qui a envie de dire « Moi, je veux voir l'Éternel comme Job a vu l'Éternel » Ben, vous lirez tous les chapitres de Job avant de répondre « Oui ». Passer par où Job est passé pour en finalité arriver à dire « Maintenant, mon œil t'a vu ». C'est pas si simple de pouvoir contempler Dieu. Ça nous entraîne évidemment par certaines vallées profondes, par certains dépouillements, par certaines souffrances. Entendre Dieu, c'est pas la chose la plus difficile. Entendre Dieu ou entendre parler de Dieu, vous venez à l'église le dimanche et puis vous écoutez. Ça ne veut pas dire que vous entendez bien ce que Dieu vous dit et que vous comprenez bien. Mais de pouvoir observer Dieu, de le discerner, de pouvoir contempler l'Éternel, là évidemment, ça réclame une vie à ses pieds. On entend avant de voir. C'est une réalité. Le petit enfant dans le ventre de sa mère, il entend, mais il voit rien. Il est dans le noir. Ça n'empêche pas que là, dans ce lieu clos, protecteur et nourricier, l'enfant va se développer. On dit souvent aux mamans et aux papas, mais parlez à l'enfant, attendez pas qu'il naisse, il va reconnaître votre voix, c'est important pour lui, alors qu'il est dans le ventre de la maman. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Et à cette petite histoire, je la trouve tellement belle, de ces deux bébés, ces deux jumeaux qui sont dans le ventre de leur maman. Et puis ils discutent entre eux. Et puis il y en a un qui dit, moi je pense qu'il y a quelqu'un autour de nous. Il y a quelqu'un qui prend soin de nous, il y a quelqu'un qui nous aime, quelqu'un de bien plus grand que nous. Et l'autre le regarde et lui fait « Mais non, tu vois bien qu'il n'y a personne. On est là et puis voilà, on n'est que tous les deux, il n'y a rien autour de nous. » C'est à peu près la même chose entre un chrétien et un athée. Il y a cette discussion. Moi je te dis que Dieu est là, il est autour de nous, il prend soin de nous, il nous nourrit, je sais qu'il nous aime. Mais moi, je vois rien, regarde, il n'y a rien autour de nous. Et pourtant, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux afin que je puisse voir. D'abord, j'entends. Après, je vois. On entend avant de voir. C'est une réalité. Notre foi vient de ce que l'on a entendu. Mais nos yeux ont aussi besoin de voir ce que Dieu fait, de voir ses œuvres dans la création et dans nos vies, de voir sa grâce. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Et là, je contemple, évidemment, l'œuvre de Dieu au travers de ce qu'il a fait dans la vie des autres. Beaucoup de choses passent par la vue. Et nous ne pouvons pas négliger cet aspect dans nos vies. Nous ne pouvons pas demeurer spirituellement aveugles, borgnes, myopes. Alors que Dieu veut que nous ayons une vue claire et précise. Il l'a proclamé à travers le prophète Ésaïe au chapitre 42 et au verset 18. Sourds, écoutez. D'abord on peut se dire, mais sourds, écoutez. Dieu peut parler au handicap. Amen. Il parle à nos handicaps. Il s'adresse à ce qui est mort. Et il y met la vie. Sourds, écoutez. Mais il y a évidemment l'image de la surdité spirituelle. Vous qui avez l'oreille endurcie, vous qui avez l'oreille bouchée tellement vous avez laissé des choses rentrer. Ne laissez pas n'importe quoi entrer dans vos oreilles. Même un petit caillou, un petit scrupulus. Vous savez ce que c'est que le scrupulus ? Le scrupulus, c'est un petit caillou qui entrait dans la spartiate des soldats romains dans leurs sandales. Alors ils marchaient, ils disaient « Ouf, j'ai un scrupulus dans ma godasse ». Alors ils enlevaient le scrupulus et puis après ils marchaient beaucoup mieux. Et de ce mot scrupulus est sorti le mot scrupule. Et quand on a des scrupules, ben on ne peut pas bien marcher. Et quand on a des scrupulus dans l'oreille, eh ben on n'entend pas bien. Sourd, écoutez, aveugle, regardez et voyez. Et c'est en Christ que Dieu a rendu possible ce qui était impossible. Christ, la parole incarnée, la parole faite chair, la parole visible. Christ, c'est la parole visible. Une parole. Est-ce que vous voyez ma parole ? Je parle, mais vous ne la voyez pas, vous l'entendez. Mais Christ, c'est la parole rendue visible. Il est la parole incarnée, la parole faite chair, la parole visible. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie, en elle était la lumière. Quelle grâce ! La parole nous a été révélée, elle s'est faite chair. Visible en lui-même, la preuve que Dieu ne néglige aucun de nos sens pour se révéler à nous. Dieu aurait pu rester le Dieu de l'invisible et continuer à nous parler. Mais il s'est incarné, la parole a été faite chair, nous avons vu de nos yeux, nous avons contemplé la parole. Et nous rendons témoignage de cette parole. La Bible, c'est pas juste une parole écrite des mots d'hommes, calqués, alignés les uns sur les autres. La Bible, c'est la parole révélée, la parole de Dieu, vie, vérité, inhérente. J'oserais dire, ne prenez pas le risque d'aller critiquer cette révélation, voire même de la minimiser. Cette parole est la vie. Parole révélée. Toute écriture est utile pour exhorter, pour encourager, pour redresser l'homme et la femme de Dieu. Les miracles que Christ a accomplis, cette parole révélée, en guérissant autant les sourds, les muets, les aveugles, en sont la preuve. Ce qui s'est produit et qui peut encore s'accomplir dans le domaine physique peut aussi s'accomplir, bien évidemment, dans le domaine spirituel. Pourquoi se méfier de la vue ? Dans la culture hébraïque, seuls les sens liés à l'audition, c'est-à-dire l'ouïe et le langage, étaient considérés comme utiles pour l'enseignement et la connaissance. Tandis que la vue était rejetée. Pourquoi ? Parce que la vue était associée à quoi ? Au désir, à la convoitise, aux passions charnelles. Et à cause de leur nature pécheresse, prompte à s'enflammer par la vue, les Juifs avaient particulièrement mis en exergue certains textes tels que le Shema Israël, que vous trouvez dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echa. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel, le seul Dieu. Écoute, écoute Israël, écoute. Mais ils avaient négligé d'autres parts entières du Pentateuque des cinq premiers livres de Moïse. Des générations d'Hébreux ont récité ce passage des Écritures. Vous savez que le Shema Israël est la prière quotidienne des Juifs. Chaque Juif qui est pratiquant, qui pratique sa foi, récite le Shema Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Echa. Tous les jours. Écoute Israël, il y a un seul Dieu. Des générations d'Hébreux ont récité ce passage, mais certainement ont-ils oublié que le Shema, ne signifie pas seulement écouter, mais aussi comprendre et mettre en pratique la prescription entière de la parole que Dieu avait donnée, la révélation entière de la parole de Dieu. La Bible ne doit jamais être partiellement ou superficiellement retenue. Le Christ tout entier dans la parole tout entière. Voilà une des bases du protestantisme. Pas un bout de la parole, pas un bout du Christ, mais le Christ tout entier dans la révélation tout entière. Je ne vais pas faire du tri sélectif. Un bout du Christ et un bout de la parole, ça me suffit bien. Parce que généralement, quand je fais ça, c'est pour y ajouter des bouts d'autre chose. La parole s'auto-suffit à elle-même et elle me suffit à moi amplement. Et je suis bien humble face à elle. J'ai tellement encore à comprendre d'elle et de Dieu par voie de conséquence. Sinon, combien de textes sont compris et utilisés hors de leur contexte? Et il y a cette petite phrase qui dit qu'un texte hors de son contexte est toujours un prétexte. La suite de Deutéronome au chapitre 6, versets 8 et 9, dit que les commandements donnés par Dieu devaient être attachés comme un signe sur les mains des Hébreux et comme des frontons entre leurs yeux. Vous avez certainement vu ces Juifs au mur des Lamentations avec la petite boîte là sur la tête, le petit carré noir, et puis il y a les lanières en cuir qui descendent autour du bras, etc. Peut-être un jour je vous parlerai de tout ça, mais il avait un parchemin des Écritures dans cette petite boîte. Lis-les sur ton front. Il devait être aussi écrit là, sur leur front, entre leurs yeux, pour garder toujours la parole visible. Ils avaient aussi écrit sur les poteaux et les portes de leur maison. Quand vous allez dans une maison juive, eh bien généralement, si ce sont des pratiquants, vous avez ce qu'on appelle la mezouza sur la porte. C'est-à-dire que c'est en fer, c'est décoré généralement, et dedans, il y a une portion des Écritures. Écris-les sur les poteaux et les portes de ta maison. Et en donnant ces consignes, Dieu montrait que l'écoute autant que la vue était importante pour que l'on se souvienne des choses essentielles. Pourquoi Dieu demandait de bâtir des autels? Ce n'était pas que des autels sur lesquels il fallait venir faire des sacrifices. Il y avait des autels de témoignage. Et chaque fois qu'on repassait devant cet autel, on se rappelait. Dès qu'on voyait cet autel, on se rappelait. Est-ce qu'il y a des autels comme ça posés dans votre vie? Des choses qui vous rappellent des moments glorieux que vous avez vécus avec Dieu? La pédagogie actuelle a remis cette vérité en pratique, alors que des générations d'enseignants l'avaient négligée, en privilégiant une instruction seulement magistrale et théorique. Il y avait ce qu'on appelle les cours magistraux dans les amphithéâtres. Alors, l'enseignant était là, il donnait son cours. Que t'écoutes, que t'écoutes pas, il donne son cours, lui. Tu comprends, tu comprends pas, c'est le cours magistral, t'as pas le temps, tu peux même pas poser de questions parce que c'est pas l'objectif. Et vas-y, il dispense son cours. Cours magistral. Et pendant des générations et générations, on a enseigné les gens à partir de cours magistral. Même notre église, nos églises, sont un peu sous la formule du cours magistral. Le pasteur est là, il y a l'auditoire qui est là, qui est positionné, qui écoute, etc. Dans le cours magistral, on n'a pas le retour de l'auditoire. On ne sait pas si c'est compris ou pas compris ce qui a été dispensé dans le cadre des enseignements. Et c'est bien d'avoir des retours. Comment la parole annoncée a procuré une efficacité dans la vie du quotidien. Un retour sur l'annonce, un retour sur l'enseignement, un retour sur image. Depuis le commencement, Dieu s'était servi d'image pour parler à son peuple. Le tabernacle, la loi et beaucoup d'autres événements, tels que l'histoire de Joseph, ont été des images des choses à venir, servant de pédagogue à un peuple immature qui n'était pas capable de saisir les choses spirituelles sans avoir un support visible. On sait que le culte juif est un culte rempli de symboles, plein d'images. Le chandelier, le tabernacle, ce sont plein de symboles. On peut y rattacher nos yeux. afin d'aller y puiser après des pensées spirituelles, des révélations de Dieu. Jésus a également utilisé cette pédagogie. Chaque fois qu'il a employé des paraboles pour illustrer ses vérités, il essayait de restituer une image. Si Jésus avait eu le PowerPoint, il l'aurait utilisé. Parce qu'il sait que l'information passe aussi par les yeux, par la vue. Vérités qui ne sont néanmoins compréhensibles que pour ceux qui ont l'esprit régénérateur dans leur vie. Parce que les paraboles n'étaient pas faites pour aider à comprendre. Elles étaient faites au contraire pour que certains ne comprennent pas. Et seuls ceux qui avaient l'esprit de Dieu en eux comprenaient ce que le Christ disait. En tant qu'être humain pourvu de sens charnel, nous avons besoin de tous nos sens pour mieux comprendre, mieux mémoriser, mieux appréhender des vérités purement théoriques et spirituelles. Et Dieu le sait, c'est lui qui nous a créés ainsi et il sait à quel point le péché a altéré notre entendement. Dieu sait combien le péché a altéré notre vision de qui il est. Ce serait édifiant de passer juste une soirée à partager qu'est-ce que Dieu est pour toi. Qu'est-il pour toi? Qu'est-ce que Jésus est pour toi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est pour toi? Que représente-t-il? Qu'est-il réellement dans ta vie? Quelle révélation en as-tu? Dieu sait combien le péché a altéré notre vision de qui il est. Et finalement, de qui nous sommes aussi. De qui sont ceux et celles qui nous entourent. Il sait que nous ne sommes pas objectifs en réalité, ou très peu. Mais plutôt prompts à juger. Nous sommes remplis de préjugés. Il sait que notre vision déformée de Dieu et de notre monde nous entraîne dans bien des illusions, bien des péchés et évidemment de l'idolâtrie. Prenons un exemple. Quand Moïse a disparu pour un temps au sommet du mont Sinaï, Dieu l'avait convié à entrer dans sa présence. Dieu voulait lui donner la loi, les tables de la loi. Le peuple s'est senti abandonné, perdu. Moïse était à leurs yeux le seul représentant du Dieu visible. Aussi ont-ils été voir Aaron, le frère de Moïse, pour qu'il puisse leur construire un Dieu visible. Moïse a disparu, on ne le voit plus. Et le Dieu qui s'est révélé à nous, on ne le voit pas. Aaron, s'il te plaît, construis-nous un Dieu qu'on puisse voir. Un Dieu visible, pouvant marcher à notre tête, pouvant marcher devant nous. Et sur lequel nous pouvons poser nos regards pour vérifier à tout moment sa présence au milieu de nous. On sait qu'il est là parce que le veau était là, alors c'est bon. Il est là, on est tranquille. Vous savez, c'est un peu comme les crucifix au-dessus du lit de la chambre. C'est bon, il est là. Moïse était à leurs yeux le seul représentant du Dieu invisible et d'un seul coup, il disparaît. Plus aucune représentation, plus rien à quoi se rattacher. La présence de Dieu n'est ni de l'ordre du tangible, ni de l'ordre du visible, mais d'un autre ordre, celui du spirituel et de la foi. Beaucoup disent qu'ils ne peuvent pas croire le temps qu'ils ne voient pas, et ils ont en partie raison. Si nos yeux ne sont pas utiles pour fonder notre foi, nous avons néanmoins besoin que Dieu ouvre les yeux de notre cœur pour susciter une véritable foi. Un autre texte a amené les Israélites à se méfier de la vision et à privilégier l'écoute. C'est dans 1 Roi au chapitre 19, versets 11 à 12. L'Éternel passa et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après un feu, un murmure doux et léger. Et là se manifestait Dieu. Et ce texte pourrait laisser entendre que Dieu n'est pas dans les manifestations visibles, mais dans un murmure doux et léger. Mais littéralement, le texte dit plutôt que Dieu se révéla ici dans le son, écoutez bien, d'un fin silence. Le son d'un fin silence. Vous avez déjà écouté le son d'un fin silence ? C'est-à-dire qu'Élie a perçu Dieu dans un son à la limite du silence. En réalité, ce n'est ni dans une voix audible à notre oreille, ni à une vision visible à nos yeux que Dieu se révèle à nous. Ni dans l'un, ni dans l'autre. Mais aux oreilles et aux yeux de notre cœur, de notre être intérieur, illuminé par la lumière divine et de notre entendement renouvelé par le Saint-Esprit au contact de la parole de Dieu écrite. Car d'autres textes nous informent que Dieu peut aussi se révéler bruyamment par de grandes choses. Le psaume 29, verset 3 à 9 nous dit « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, l'Éternel est sur les grandes eaux, la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse, la voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban, il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu, la voix de l'Éternel fait trembler le désert, l'Éternel fait trembler le désert de Kadès, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts. » On peut effectivement se méfier d'un son à peine audible. Ai-je bien entendu ? Ça, combien viennent me voir en me disant « Ai-je bien entendu ce que Dieu m'a dit ?» Ou d'une image à peine visible, « Ai-je bien vu ?» Mais on ne peut douter de ce que Dieu nous communique par son esprit alors que nous nous appuyons sur sa parole. Le Dieu créateur a dit et fait de grandes choses, relatées dès les premiers versets du livre de la Genèse. Mais ceux qui n'ont pas reçu son esprit ne reconnaissent ni sa voix, ni ses œuvres, tellement visibles à l'œil nu pourtant. La façon dont Dieu a créé notre univers est miraculeuse et grandiose. Pourtant, qui le reconnaît ? Les plus grands scientifiques, quoique ils sont en train de démonter la théorie de l'évolution de Darwin, les uns derrière les autres, en train de dire, bon, on s'est un peu trompé, quoi. Donc là, la science est en train de basculer, que Dieu soit béni, je pense qu'un jour elle reviendra dans le giron de la foi, parce qu'elle sera bien obligée de reconnaître les évidences. Tous vivent dans cette création, mais qui a entendu la parole créatrice d'Élohim ? Qui a vu la grâce de Dieu dans la nature qui l'environnait ? Dans les évangiles, Christ a été appelé le Logos, la parole rendue visible. Jean chapitre 1er verset 4, que Christ précise que Christ est la parole incarnée, la parole vivante et la lumière des hommes. Le divin s'est rendu visible à travers lui et grâce à lui les aveugles ont vu. Et lui-même dit à ses disciples, dans Luc chapitre 7, verset 22, « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez entendu ? Les aveugles voient ! Ceux qui ne voyaient pas, maintenant, ils voient. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds, ils entendent. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jean pouvait mourir tranquille. Il était là. Il agissait. Il accomplissait sa mission, telle que Jean l'avait annoncée. Est-il celui qui doit venir ? Ou est-ce que je dois en attendre un autre ? Certains en ont attendu un autre. Et il est venu l'autre. Et ceux qui regardent cet autre sont dans les ténèbres, croyez-moi. Jean-Baptiste savait qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Dieu au milieu des hommes. Les sourds entendent. Les aveugles voient. La parole de Jésus était accompagnée de miracles, comme autant de signes visibles pour révéler son identité. On pourrait croire que les miracles étaient un moyen de susciter la foi. En réalité, il y a une hiérarchie très claire entre la foi et les signes, et la foi et la parole. La clé nous est donnée à la fin des évangiles. Dans Jean chapitre 20, verset 19, il est dit que quand le Christ ressuscité a dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » La foi ne vient pas de la vue, mais la vue sert à renforcer la foi. J'ai cru dans le Christ avant même de l'avoir vu se manifester. Mais une fois que j'ai cru en lui, bien vite, mes premières prières, c'était « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux te contempler. Je veux te voir. Je veux que mes yeux soient remplis de ta gloire. » Et vous savez quoi? J'ai vu. Mes yeux se sont ouverts sur sa réalité. J'ai cru et j'ai vu. Et lorsqu'on a vu, nos regards ne peuvent plus être les mêmes. Il ne faut pas se contenter de croire. Il faut voir. Certains se contentent de croire, mais leurs yeux n'ont pas été marqués par la révélation de Dieu. Ils ont besoin d'être marqués dans leur vue, que les yeux des aveugles s'ouvrent. Parce que c'est comme ça que nous pouvons, nous aussi, avoir un regard de grâce. Les Juifs, comme les chrétiens, se sont longtemps méfiés de la vue, en l'associant au péché de convoitise, au désir impur. Ils se sont davantage focalisés sur l'écoute. Pourtant, cela ne les a pas empêchés de tordre la parole de Dieu, en l'interprétant à leur façon, pas sous l'onction de l'Esprit qui nous enseigne toutes choses. Certains se disent « Ah, mais il y a tellement de manières de l'interpréter !» Ben oui, les hommes, ils ont plein de manières d'interpréter. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans la compréhension des textes, ce n'est pas une méthodologie humaine à quoi tu as affaire, mais à une révélation de Dieu dans ta propre vie. Sinon, il n'y aurait que des théologiens avec des bacs plus 48 qui pourraient la comprendre, cette parole. Mais il a été donné que des enfants puissent la comprendre. Dès l'instant où l'Esprit est dans leur vie, il leur enseigne toutes choses. Alors on s'est focalisé sur l'écoute. Et pour autant, la parole, elle a été tordue par énormément de gens. Ils ont oublié certains passages en en mettant d'autres en exergue. Les faux docteurs, les faux prophètes en sont un exemple flagrant dans les Écritures. Les Écritures le dénoncent cela. Les Écritures n'ont pas recouvert l'activité des faux prophètes et des faux docteurs. Au contraire, nous avons été mis en garde face à ces interprétations, sorties des contextes, et surtout, qui n'étaient pas révélées par l'Esprit de Dieu. Dieu réclame de notre part autant une oreille ouverte que des yeux ouverts. Ce n'est pas pour rien qu'il nous incite à veiller et à nous réveiller. Et si cela ne suffisait pas à restaurer notre vision, dans Éphésiens chapitre 1er, versets 17 à 19, il est dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Entre parenthèses, c'est bien lui qui nous appelle, hein, c'est pas nous qui l'appelons. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Un regard vivant et mobile, souple, humide, vif. Il n'est pas endurci. Inflexible, sec. Il ne regarde pas à travers le prisme des préjugés, des pensées toutes faites liées à notre culture, à notre éducation ou à un passé douloureux. Ce n'est pas un regard qui tue, qui condamne et qui exclut. Dieu, à travers nos yeux, a ouvert nos yeux, pardon, pour que nous n'ayons pas une vision étriquée de lui. De nous et des autres. Il élargit notre vision afin que nous ayons un regard plein de grâce. Plein de grâce. Quand Barnabas a été détaché par les frères de l'église de Jérusalem pour aller voir à Antioche ce qui se passe, qu'est-ce qu'il était Barnabas dans sa vie avant d'être le Barnabas que vous connaissez? C'était un lévite, un homme de la loi. Les frères de Jérusalem s'inquiètent parce qu'à Antioche, il se passe des choses. Vous connaissez, vous, la ville d'Antioche? Elle avait sacrée réputation, la ville d'Antioche, croyez-moi. Et là, il y a des païens qui se réunissent pour annoncer Jésus-Christ. Oh là 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 là. On va détacher l'ancien lévite, Barnabas, pour qu'il puisse aller voir à Antioche ce qui se passe. Il aurait pu faire son rapport en disant, « Hé, ils ne sont pas circoncis, les gens-là. Ils viennent pour adorer l'Éternel, ils ne sont pas circoncis. Ils transgressent les commandements de Moïse, la loi. » Il aurait pu avoir les yeux du lévite sur une situation. Oh là là, c'est pas tout à fait comme ça que ça doit se passer. L'église de Jérusalem, elle avait une vision bien reposée sur les Écritures. Elle avait les siècles de la connaissance biblique, de toute la Torah, de tout l'Ancien Testament. Ils avaient tout l'arrière-plan juif, mais d'un seul coup, c'est des païens qui se réunissent entre eux et qui adorent le Christ. Et il se passe des miracles. Ils parlent en langue. Il y a une démonstration d'esprit. Et lorsque Barnabas arrive à Antioche, il a les yeux de la grâce. Il sait reconnaître Dieu en activité dans cette église. Ça ne veut pas dire que l'église d'Antioche, tout allait bien. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Mais il a les yeux de la grâce. Il contemple l'œuvre de Dieu. Et ô combien l'église d'Antioche a béni l'œuvre de Dieu. Ô combien elle a été une base pour envoyer des missionnaires. Ô combien elle a été vivante et édifiante. Ô combien elle a financé même des envois en mission. Si Barnabas était rentré en disant, oh là là, il se passe des choses là dans l'église d'Antioche. Moi j'ai vu que selon la loi, il y a des trucs qui vont pas. Il aurait pu faire son rapport, envoyer son rapport bien bouclé, et puis peut-être que les frères de Jérusalem auraient ordonné la fermeture de l'église d'Antioche. Faites fermer cette église. Ce qui s'y passe n'est pas normal. Ou on va détacher des hommes pour aller redresser tout ça. Mais Barnabas a expliqué comment la grâce de Dieu se manifestait au milieu d'eux. Il n'avait pas un regard qui tue, qui condamne et qui exclut. Dieu a ouvert nos yeux pour que nous n'ayons pas une vision étriquée de lui, de nous et de tous les autres qui sont autour de nous. Il élargit notre vision pour que nous ayons un regard plein de grâce. Et quand l'apôtre Paul prie pour les chrétiens d'Éphèse afin qu'il illumine, afin que Dieu illumine les yeux de leur cœur, cela signifie qu'il éclaire leur compréhension, qu'il les imprègne de la connaissance salvatrice, qu'il les instruise et leur donne du discernement. Cela ne signifie pas que du jour au lendemain, nous allons voir toutes choses avec les yeux de Dieu, non. Dieu reste Dieu. Et nous, nous restons humains. Moi, ça me va bien. J'ai pas du tout envie de devenir Dieu. C'est trop compliqué comme job. Déjà pasteur, ça l'est déjà beaucoup, mais alors, être Dieu, soyez pas Dieu, hein, dans la vie de personne, ni même dans la vôtre. Dieu reste Dieu et nous sommes humains. N'oubliez jamais cela. Néanmoins, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, dans la traduction Parole vivante, il nous est expliqué que si nous contemplons la gloire de Dieu comme dans un miroir. Évidemment, aujourd'hui, quand vous avez l'image du miroir, vous avez une restitution parfaite de votre visage quand vous vous regardez dans le miroir. Mais à l'époque, les miroirs, c'était des plaques d'airain polies. C'était du métal qu'on astiquait. Alors, vous voyez pas très bien, on distinguait des formes, mais bon, c'était pas très clair. Nous voyons comme dans un miroir. Nous voyons Dieu comme dans un miroir. Nous sommes néanmoins au travers d'une image de Dieu qui aura tellement besoin de l'éternité pour être complétée, et elle ne le sera même pas dans toute l'éternité, complétée l'image de Dieu. Il est insondable. Nous sommes miraculeusement, en contemplant cette parole, nous sommes miraculeusement transformés d'après le modèle de Christ pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Et si nous gardons les yeux sur Christ, notre vision va changer. Elle va s'illuminer. Plus les yeux de notre cœur sont éclairés, plus notre adoration prendra de la profondeur. Dans Jean 4, 23, il est dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ». Il y a une réelle différence entre ceux qui adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas vraiment et ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Dieu est tellement magnifique et admirable que ceux qui voient ses œuvres ne peuvent tarir de louanges à son sujet. Pourquoi est-ce essentiel que Dieu éclaire notre entendement ? Parce que nous devons marcher dans la direction que Dieu veut pour nous, selon ses plans et ses voies. Nous ne pouvons pas faire du surplace, nous ne pouvons pas tourner en rond ou nous aventurer dans tous les chemins sans issue qui s'offrent à nous. Nous ne pouvons pas tâtonner comme des aveugles alors que Dieu nous a donné la vue. La connaissance de la vérité révélée par le Saint-Esprit nous libère des mensonges sur nous-mêmes, sur le monde ou sur Dieu lui-même. Parce que certaines personnes croient des mensonges sur Dieu. Elles sont enténébrées dans leur entendement, captives de leur propre entendement faussé. Quand Dieu éclaire notre entendement, nous découvrons la vérité et nous devons abandonner nos vieilles idées erronées, nos concepts humains et nos philosophies désuètes. Quand tu as contemplé le soleil, pourquoi tu as toujours besoin de ta lampe de poche ? T'es en plein soleil avec ta lampe de poche, mais à quoi elle te sert ? Accepte de poser cette lampe et de vivre éclairé par le Seigneur et son Esprit. On ne doit pas avoir peur du changement. Surtout quand c'est le changement que Dieu veut accomplir. Même s'il nous faut quitter ce que nous connaissons pour découvrir ce que nous ne connaissons pas. As-tu la prétention de dire que tu sais tout pour être autant rigide et t'accrocher à ce que tu connais ? Accepte d'être enseigné, d'être remis en question. Dieu est bien au-delà de tout ce que tu peux concevoir et même penser. Même sa parole, nous avons besoin d'y amener un regard nouveau et laisser Dieu venir peut-être nous remettre en question sur la manière dont nous en avons fait une lecture faussée au travers des années. Si nous voulons progresser, nous devons nous remettre en question constamment. Ça, c'est la base de la réforme. La réforme, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé à une période de l'histoire. C'est une pensée spirituelle d'une réforme constante et permanente, d'être sans cesse en remise en question. Ça, c'est le vrai protestant, qui est en fait un attestant, quelqu'un qui n'arrête pas de proclamer la parole, de revenir avec la parole, et il sait que cette parole, c'est une révélation progressive, on la comprend de mieux en mieux, au fur et à mesure que les temps avancent, certaines prophéties sont décelées, et évidemment, dès l'instant où nos regards sont ouverts sur certaines choses, nous devons remettre en question dans nos vies ce qui doit l'être. Et ne pas nous pétrifier à un certain endroit de notre histoire. Cette révélation, elle est fraîche. Elle est vieille, mais elle est fraîche. La parole de Dieu est une parole vivante et non morte. Spurgeon a écrit que votre désir de voir Jésus grandisse sans cesse. La méditation et la contemplation sont souvent comme des fenêtres d'agate et des portes d'escarboucle au travers desquelles nous voyons le Rédempteur. La méditation est un télescope qui permet à l'œil spirituel de contempler Jésus avec une meilleure clarté qu'il nous aurait été possible si nous avions vécu au jour où il se trouvait sur la terre. Vous vous rendez compte de ce que dit Spurgeon ? En lisant la parole de Dieu, vous avez la possibilité de mieux comprendre Jésus que si vous étiez amené 2000 ans en arrière et à le croiser. Nous sommes des privilégiés de l'histoire. Nous qui avons la parole de Dieu. La méditation de l'Écriture est un télescope qui permet à l'œil spirituel de contempler Jésus avec une meilleure clarté qu'il nous aurait été possible si nous avions vécu au jour où il se trouvait sur la terre. Puisse notre conduite se rapporter davantage au ciel. Bah oui, c'est pas le tout de la lire la parole. Et d'y rencontrer le Jésus des Écritures. Puissions-nous être davantage occupés par la personne, l'œuvre et la beauté de notre Seigneur incarné, avec plus de méditation, la magnificence du roi nous frapperait avec un éclat plus resplendissant. Mes yeux t'ont vu. Ta parole est venue frapper mon âme. Je t'ai vu dans la parole est venue à moi. Plus nos yeux vont s'ouvrir sur Christ, et plus nous serons transformés à son image. Christ ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. J'arrive à la fin. Il a un regard de compassion qui ne s'arrête pas à notre origine ethnique. La femme de Sidon, il lui a pas dit « Ouais, tu es de Sidon, va-t'en. » À notre âge, les enfants venaient vers lui. Les vieillards venaient vers lui. À notre handicap ou à notre maladie, les aveugles, les sourds, les lépreux. À notre condition maritale, la Samaritaine. Elle avait un sacré dossier, la Samaritaine, quand même. Hein. Bien là, je vais te donner des cours d'éthique. Je vais t'expliquer comment ça se passe, la vie chrétienne. Jésus lui a pas donné un cours d'éthique à la Samaritaine. Peut-être après, elle a entendu ce qu'était l'éthique chrétienne et comment devaient se comporter les chrétiens. Mais au début, c'est pas un cours d'éthique qu'elle a entendu. Jésus lui a proposé l'eau de la vie. Si tu bois l'eau de ton puits, du puits d'Abraham, tu auras toujours soif, tu sais. Le puits de la religion, le puits des coutumes, le puits de la tradition. Tu auras toujours soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Plus jamais. Tes désirs seront taris. Parce qu'une eau coulera de ton sein. Une source sera en toi. Tu n'auras plus à courir après des sources. Elle sera en toi. Moi, je vois toujours d'un œil un peu critique, excusez-moi, tous ceux qui courent après les événements, les endroits, les lieux, les personnes, pour espérer se désaltérer un peu. Alors que le Seigneur a dit, mais moi, je ne veux pas que tu ailles boire à la source d'un tel ou d'une telle. Je veux mettre une source en toi. Pour que partout où tu es, tu sois toujours désaltéré. Amen. C'est complètement différent. Notre condition maritale, notre condition sociale, les mendiants venaient vers lui et notre cœur pécheur, des hommes, des femmes, âgés et bien d'autres, sont venus aussi vers lui dans leur état de péché. Christ a un regard ému de compassion pour un troupeau de brebis qui erre sans berger. Les brebis sont là, mais il n'y a pas de berger. Où est le berger ? Il n'y a pas de berger. Il voyait le peuple d'Israël comme un troupeau de brebis qui erre sans berger. Et il est ému de compassion. Un troupeau qui a besoin de soins, de sécurité, qui a besoin d'une nourriture reconstituante et édifiante. As-tu déjà croisé son regard sur toi ? As-tu déjà croisé le regard du Christ sur ta vie ? Que vas-tu lire dans ses yeux ou qu'as-tu lu dans ses yeux? Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le Christ savait être ému. On se protège en accusant. On se démarque en dominant. Lui, il n'est pas venu par le haut, il n'est pas descendu sur un nuage. Il est venu par la crèche, par le bas. Simple homme. Il s'est mis à notre hauteur. Il a pataugé dans notre bourbier, dans notre quotidien. Il est venu au contact des lépreux. Il l'est touché. Mais Jésus, il ne faut pas toucher un lépreux, tu es saint. Mais quand Jésus touchait un lépreux, ce n'était pas Jésus qui était souillé, c'était le lépreux qui était purifié. Les chrétiens ne doivent pas toucher aux choses impures. Sont-ils suffisamment sanctifiés pour que, au contact des choses impures, ce soit les choses impures qui soient purifiées et pas eux qui soient souillés? Réfléchissez bien à cela. Avons-nous un regard rempli d'amour divin, inconditionnel et plein de compassion? Regardez ce que dit le proverbe 22:9. L'homme dont le regard est bon sera béni. Il est court, hein? L'homme dont le regard est bon, il sera béni. La transformation de notre regard entraînera la bénédiction dans nos vies. Pense au regard que tu poses régulièrement sur les gens qui t'entourent, sur tes enfants, sur ton conjoint, sur ta famille, sur tes amis, sur tes frères et sœurs dans la foi, sur ton église, sur le serviteur de Dieu. Pense à ces regards que tu poses. Et je te le dis, l'homme dont le regard est bon sera béni. La transformation de notre regard entraînera la bénédiction dans nos vies. N'oublions pas d'être plein de grâce et lent à la colère avec les autres, comme l'est notre Seigneur vis-à-vis de nous-mêmes. Bannissons les regards critiques et les jugements tranchants et manifestons la grâce qui ouvre les champs des possibles à tous ceux qui se confient en Dieu et s'appuient sur lui, car tout est possible à celui qui croit en lui. Arrêtez d'anéantir les espoirs dans les vies et proclamez plutôt qu'avec Dieu, nous ferons, vous ferez des exploits. N'oubliez pas que Jésus a déclaré dans Matthieu 7:2 « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Il y a des retours de manivelle parfois. J'en ai pris quelques-uns dans ma vie de pasteur, des retours de manivelle. Ça fait mal. Quand le Seigneur se sert de notre propre mesure pour venir nous évaluer, on se sent tellement oppressé. Seulement, on n'avait pas l'air de ressentir tellement l'oppression des autres quand on se servait de ces jugements-là pour les juger. Pour conclure, vous l'avez bien compris à travers de cette série, notre écoute, notre langage, notre vision sont étroitement liés à notre cœur, c'est-à-dire à notre être intérieur. Si nous voulons que nos oreilles entendent la voix de Dieu, si nous voulons que de nos lèvres coule du miel, si nous voulons avoir un regard illuminé par la gloire de Dieu, plein de grâce et de discernement et de bonté, nous devons nous focaliser sur Christ, notre divin modèle. Pas sur un point du Christ, pas avec un regard de mort, mais sur Christ, dans sa globalité. Si nous voulons que nos oreilles entendent, c'est vers lui. Si nous voulons que nos yeux voient, si nous voulons que nos lèvres soient pleines de paroles agréables, douces, amenant la vie. Nous devons fixer nos yeux sur Christ et écouter attentivement sa voix. Si nous voulons que nos paroles et nos actions reflètent la gloire de Dieu, nous devons prendre garde à l'état de notre cœur. Non seulement Jésus a dit dans Luc 6:45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Et le méchant, il en tire quoi, lui? de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais comment mon cœur peut-il être abondant des bonnes choses? Parce qu'il a ouvert mon oreille, parce qu'il a fait tomber les écailles de mes yeux, alors mon cœur se remplit des bonnes choses. Jésus dira aussi dans Matthieu 6, 23, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Tout ton corps. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Tout comme nos yeux naturels reçoivent la lumière du soleil, notre être intérieur, notre cœur, reçoit la lumière de la parole, la lumière de Christ. Si nous faisons le choix de lui obéir, tout notre être, tous nos gestes, toutes nos paroles seront baignés de gloire. Mais si nous désobéissons, nous serons plongés dans les ténèbres. Faisons le bon choix dès maintenant. Et si vos oreilles sont endurcies, si vos yeux se sont fermés, une petite conjonctivite. Ah, j'ai vécu des trucs quand j'étais enfant, c'était terrible. Vous savez, quand vous vous réveillez le matin, vous voulez ouvrir les paupières et elles sont collées, quoi. Oh, l'angoisse, le cri dans le lit, quoi. T'as ta mère qui arrive, je suis aveugle. Mais non, t'es pas aveugle, t'as les yeux collés. Tu fais de la conjonctivite, t'as une irritation. Il y a quelque chose qui est venu irriter ton œil. Est-ce qu'il y a des choses qui irritent vos yeux, qui déclenchent des crises de conjonctivite et qui fait que vous ne voyez plus? C'est l'angoisse quand on ne voit plus. C'est dur de perdre la vue. Pour d'autres, c'est autre chose. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu 13, 16, « Heureux, bénis sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » Si vous souffrez d'une cataracte spirituelle, avancez-vous dans la prière. Laissez-le retirer ce qui vient troubler votre vue. Une surépaisseur opaque, comme un voile qui s'est remis et qui vous empêche de voir nettement les choses. Si vous les laissez, ça deviendra des écailles qui vous priveront totalement de la vue. Laissez-le également venir ouvrir vos oreilles. Et quand le miracle prendra place, alors vous pourrez ouvrir votre bouche pour soutenir par la parole tous ceux et toutes celles qui sont abattus. Que ce matin encore, le Seigneur fasse entendre les sourds, voir les aveugles et parler les muets. Au nom de Jésus.